Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du jeudi 30 janvier 2025. Le Campus 42 Québec a fermé ses portes vendredi. Québec Numérique, qui dirigeait cette école gratuite de codage informatique dans Saint-Roch, fait face à un manque de financement gouvernemental après le déclenchement d'une enquête administrative du ministère de l'Emploi. Les commentaires de Martine Rioux, présidente du CA.
Il y a besoin, en fait, de formation-là dans la région pour la programmation informatique, mais aussi pour avoir des parcours de formation qui sont différents.
Retrouvez le reportage complet d'Alice Zanetta sur notre site ckiafm.org dans la section Actualité. La Coalition pour le droit de manifester à Québec a lancé une pétition pour dénoncer le port du symbole Thin Blue Line par les policiers du SPVQ dans le cadre de sa campagne pour le droit à l'espace public sans discrimination. Pour la Coalition, le port de ce symbole est contraire au code de déontologie policière et témoigne d'une idéologie raciste. Plusieurs corps policiers ont d'ailleurs choisi d'en interdire le port. La pétition qui demande à l'administration Marchand de bannir le port du symbole est en ligne sur le site change.org. Une étude d'une équipe de recherche en nutrition de l'Université Laval démontre que manger local n'est pas nécessairement associé à une meilleure qualité de l'alimentation. Selon le responsable de l'étude, le professeur Benoît Lamarche, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence de promouvoir la consommation d'aliments produits localement comme mesure de santé publique pour améliorer la qualité de l'alimentation au Québec. Cela dit, il serait faux de prétendre que manger local ne sert à rien, insiste le chercheur. Il y a plusieurs bonnes raisons de promouvoir l'alimentation locale. C'est une excellente façon de soutenir les producteurs agricoles québécois, d'encourager l'économie locale et d'assurer la résilience alimentaire du Québec, poursuit-il. La Ville de Québec invite les citoyens à participer à une démarche consultative portant sur l'avenir des bibliothèques municipales. Les idées soumises viendront enrichir les orientations et la vision présentées dans la politique culturelle 2025-2030, tout en guidant les futurs développements de la Bibliothèque de Québec. Toutes les personnes intéressées, qu'elles soient utilisatrices ou non des bibliothèques, sont invitées à répondre dès maintenant au questionnaire en ligne sur le site de la Ville de Québec, dans la section « Participation citoyenne ». La date limite pour y répondre est le 16 février. C'est aujourd'hui que CKIA commence à émettre à partir de ses nouveaux locaux du 556 Carré Lépine. Ne manquez pas la première émission en direct des studios. À 17h, Richard Baillargeon vous présente son buffet musical. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et ckiafm.org.
Toute simplicité. Qu'y a-t-il dans la nature du luxe qui énerve et détruit les nations? Sommes-nous sûrs que nos propres vies ne recèlent rien de tel? Le philosophe est en avance sur son temps jusque dans sa vie matérielle. Il ne se nourrit ne s'abrite, ne se vêt, ne se chauffe comme ses contemporains. Comment pourrait-il être philosophe et ne point entretenir sa chaleur vitale par de meilleures méthodes que les autres hommes? Lorsqu'un homme se chauffe par les diverses manières que j'ai évoquées, que peut-il vouloir d'autre? Certainement pas davantage de chaleur du même type. Une nourriture plus copieuse et plus riche, une maison plus vaste et d'une splendeur encore plus ostensible, des vêtements plus fins et plus variés, des feux perpétuels plus nombreux et plus chauds, et ainsi de suite. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il lui faut pour couvrir ses besoins vitaux, un autre choix s'ouvre à lui, celui qui consiste à obtenir des choses superflues. Ce choix, c'est de s'aventurer maintenant dans la vie, car c'est de ce moment-là que commence sa vacance du labeur le plus humble. Le sol, semble-t-il, convient à la semence, car elle a poussé ses radicelles vers le bas et peut désormais élancer ses pousses vers le haut en toute confiance.
Je veux chemin nouveau à défricher. Je veux des lunes d'été à raconter. Je veux en nous-mêmes de nouveaux sols à irriguer. J'ai devant moi la vie, j'ai devant moi la vie. Je veux des chevauchées de rêves dans la nuit noire. Je veux des navires de paix dans nos mémoires. J'ai devant moi la vie.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, c'est notre première émission au studio. Alors, espérons que ça se passe bien dans les nouveaux studios, la nouvelle console. J'ai quelques lectures cette semaine, mais pas beaucoup. En fait, aujourd'hui, l'émission va porter sur le véganisme. On a un invité, Stéphane Groslot, qui est une espèce de notre autorité à Québec sur le véganisme, qui va venir nous parler de véganisme, qu'est-ce que c'est, puis les tenants et aboutissants, et etc. Mais avant ça, j'ai quelques lectures, pas beaucoup, que j'ai retenues cette semaine, entre autres... Dans le Devoir de mardi, la crise climatique laisse entrevoir un avenir incertain pour le Québec. La trajectoire climatique mondiale a beau être de plus en plus dangereuse, le Québec n'a toujours pas pris conscience de l'urgence de se préparer aux multiples impacts du réchauffement, prévient le directeur général d'Uranos, Alain Bourque. Mais il existe un réel intérêt pour la recherche de solutions concrètes, constate-t-il, à la lumière de l'engouement que suscite le symposium organisé cette semaine par le consortium scientifique. M. Bourque travaille dans le domaine climatique depuis maintenant plus de 30 ans et malgré l'accumulation de rapports qui témoignent de l'amplification de la crise du climat provoquée par notre dépendance aux énergies fossiles, il constate jour après jour que les efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont toujours insuffisants. Nous allons vers un monde climatique qui est nouveau et qui ne ressemble pas à ce que nous vivions, que nous avions dans le passé, explique-t-il en entrevue dans le Haut Devoir. L'adaptation devient de plus en plus urgente. L'année 2024, rappelle-t-il, a été marquée par un dépassement temporaire du seuil de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. En passant, c'est qu'on l'a peut-être dépassé, on ne le sait pas, c'est qu'au niveau climatique, ça prend environ 20 ans avant qu'on détermine, c'est-à-dire qu'on prenne les moyennes sur 20 ans, puis là, on peut déterminer quelle est la nouvelle température moyenne du globe. Donc, on peut l'avoir pour une année. Alors, on l'a dépassé en 2024. L'année 2024 a été, rappelle-t-il, marquée par un dépassement temporaire du seuil de 1,5 degré, qui était notre seuil qu'on avait déterminé là, aux accords de la COP de Paris, aux accords de Paris. Cette limite, qui constitue l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, est considérée comme un seuil à ne pas dépasser afin de contenir la hausse à un niveau le moins dommageable possible. Mais l'humanité est loin de faire le nécessaire pour y parvenir. Si les politiques actuelles de réduction des GES des pays sont pleinement mises en œuvre, l'ONU prévoit un réchauffement catastrophique de 3,1 au cours du siècle, 3,1 degrés. Quand on combine ce réchauffement avec le fait qu'aux États-Unis et au Canada, on ne se dirige pas dans la bonne direction, il est de plus en plus évident que nous allons devoir nous adapter. La question est de savoir à quelle ampleur, souligne M. Bourque, en précisant qu'un scénario de réchauffement de 4, 5 ou 6 degrés est possible dans le sud du Québec. Là, c'est sûr, il y a des variations là, d'un endroit à l'autre. Le Québec, surtout dans l'Arctique, se réchauffe plus vite qu'ailleurs. Mais quand on parle de 3 degrés, c'est pour l'ensemble de la planète, la température moyenne de l'ensemble de la planète. Dans ce contexte, les dérèglements climatiques vont aggraver la dégradation de nos infrastructures, bâtiments, routes, gestion des eaux, augmenter la force et la fréquence des phénomènes extrêmes, chaleur, tempête, précipitation, feux de forêt, érosion côtière, étiage des cours d'eau et bouleverser nos écosystèmes. Des répercussions se feront aussi sentir sur notre système de santé et notre économie. Ce sont des enjeux qui semblent être à long terme, mais qui se concrétisent de plus en plus à court terme. Et les gens ne prennent pas pleinement conscience des conséquences, souligne Alain Bourque. À titre d'exemple, le rapport Perspectives régionales, financé par le gouvernement fédéral, est rédigé principalement par des experts du consortium scientifique Uranos, concluant en 2022 que le Québec risquait de faire face à des pénuries d'eau. On en a déjà parlé. C'est que même si le Québec a beaucoup d'eau. On a un des endroits au monde où il y a le plus d'eau potable, c'est qu'il faut voir ça à bassin hydrographique, puis la
majeure partie de notre eau potable, elle se dirige vers le nord. Alors, c'est notre bassin, nous, qui nous alimente, il est au sud. C'est le bassin du Saint-Laurent. Et fait que même si on a beaucoup d'eau potable, on n'y a pas accès. Puis l'eau, dans le sud, on risque d'avoir des problèmes de pénurie d'eau. En tout cas, c'est à suivre. Il n'y a rien de nouveau, là, mais c'est dans le devoir de mardi que ça vous intéresse. Il y a un texte aussi de José Blanchet dans le devoir d'aujourd'hui là, sur une BD. C'est Hervé Kempf qui avait un texte qui date de quelques années. Là, comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher. Puis on a fait une BD sur ça. Et ils sont bien faites, les BD. On a vu là, celle sur l'énergie, là, que j'oublie, le jour sans fin, ou je me souviens plus du titre, en tout cas, qui est sorti l'année dernière. En tout cas, il y a plusieurs BD écologistes qui sortent. Et ça, c'est la nouvelle BD. Puis Mme Blanchet nous la recommande. À la faveur d'une panne d'électricité, j'ai relu la réédition de Comment les riches détruisent la planète à la chandelle cette semaine, parce qu'il y a eu une panne à Montréal, des pannes à Montréal. À l'avant-garde, l'auteur et journaliste Hervé Kempf avait déjà tout pigé en 2007. C'est en 2007. Son best-seller a été traduit en 12 langues. Exagéré quelques prédictions, à la hausse, et Kempf avait tout bon. Les riches nous font courir vers notre perte, tant sur le plan politique que sur le plan économique. L'ex-journaliste français au journal Le Monde, qui l'a quitté pour protester contre la censure, a fondé Reporter en 2007 aussi. C'est un média web indépendant sur l'écologie, un ovni en soi dans le monde médiatique, emploie 21 journalistes permanents. Bref, en tout cas, c'est un article fort intéressant. C'est dans le devoir d'aujourd'hui. Dans les autres lectures que je vous recommande, le dernier numéro de Philosophie Magazine qui vient d'arriver en kiosque, on a toujours un retard, c'est le numéro hiver 2024, mais qui était sorti comme en décembre, je pense. Que puis-je savoir de l'autre? Il vient juste d'arriver en kiosque, alors j'ai pas pu le lire, mais pour ceux qui s'intéressent, il y a Vladimir Yankelevitch, Serge Bouchard, c'était comme son philosophe, il en parlait tout le temps. Il y a un gros article là, sur Vladimir Yankelevitch. Dernière petite chose avant de passer avec Stéphane Groslot, c'est la Chandeleur de dimanche, en fait. La Chandeleur, c'est la fête de la lumière. Alors, on devrait la fêter, c'est le pendant positif de l'Halloween. L'Halloween, c'est le début de la nuit polaire. Au milieu, bien, c'est Noël, c'est le solstice. Puis la fin de la nuit polaire, symboliquement, c'est 12 semaines. C'est la Chandeleur. Alors, les Français font des crêpes. Moi, je la fête, la Chandeleur, je me fais des crêpes le dimanche. Alors, je vous recommande de faire des crêpes. Et voilà. Alors, on prend une petite pause musicale et puis on va parler de véganisme après ça. Là, c'est une toune qui est longue, fait que je vais me permettre d'aller chercher. pense que c'était Holtz, les planètes de Holtz. C'était, j'ai choisi Vénus, évidemment, parce que ces jours-ci, si vous regardez dans le ciel, elle est très, très visible. C'est une grosse étoile. C'est du côté ouest, là, à peu près. Là. Si vous regardez là, vers 6, 7 heures, 8 heures, là, au coucher du soleil, la planète Vénus. Alors, c'était Holtz, Vénus. Alors, Stéphane, bienvenue en toute simplicité.
Merci beaucoup.
Alors, on a Stéphane Groslo qui va nous parler de véganisme. Je pense que Stéphane a beaucoup de choses, parce que tu as un long parcours. Toi, là, ça fait longtemps que tu as fait beaucoup de choses là, par rapport au véganisme à Québec, là, notamment les potlucks que tu organises depuis des années là, au Centre Jean-Cartier.
Après, c'est en 2021 que j'ai décidé d'adopter une alimentation végane. Donc, ça fait 24 ans. Et pas longtemps après, ben, je trouvais que ça faisait du sens, autant pour l'environnement, pour l'alimentation, et évidemment pour l'enjeu des animaux qui sont impliqués dans... Si les gens veulent manger des produits animaux, ça implique la mort d'animaux. Donc, c'est pour ça que, dès le départ, j'ai commencé à vouloir... informer, faire un site web, organiser des potlucks. Même en 2006, j'ai fait le premier documentaire québécois sur le véganisme et le végétarisme. Donc, j'ai traduit l'information. J'ai vraiment fait des conférences, plein de choses pour essayer d'amener l'information au Québec en français, parce que moi, ça allait déjà bien lire en anglais. Donc, toute la philosophie derrière... le véganisme et l'éthique animale, c'est beaucoup plus les penseurs anglais qui ont développé ça, dont Peter Singer, John Robbins, etc. Puis je trouvais qu'il manquait d'informations en français au Québec. C'est pour ça que j'avais comme le goût de diffuser ça au Québec en français. Là.
Parce que avant, on appelait ça le végétalisme hein, au Québec. Le mot vegan est arrivé plus récemment.
Ben oui, en fait... en anglais, c'était le mot « vegan ». C'est en 1944 que Donald Watson, un Anglais d'Angleterre, lui était végétarien, puis il a décidé de vraiment créer ce terme-là à partir du mot « végétarien ». Et donc, en anglais, c'est vraiment le mot « vegan » qui existe depuis longtemps. Au Québec, puis en français, on parlait plus de végétalisme, mais avec les années... avec la philosophie anglaise qui s'est plus imprégnée au Québec et dans les pays francophones et autres, on a décidé de plus on s'identifie davantage au véganisme et au mot vegan. Et on a aussi même francisé le mot vegan, alors qu'au départ, en anglais, c'est V-E-G-A-N, mais on l'écrit maintenant en français. Surtout au Québec, on a vraiment adopté. Il y a comme une grosse discussion dans tous les gens, puis dire vegan, V-E accent aigu, G-A-N-E, qui est un mot épicène, et que finalement, ben c'est vraiment le terme qu'on adopte au Québec et qui englobe pas juste l'alimentation, comme des fois le végétalisme pourrait vouloir dire, mais ça englobe vraiment tout le mode de vie vegan, essayer d'éviter toute exploitation animale, essayer de... c'est ça, que ce soit dans les autres sphères de notre vie non alimentaire, que ce soit les cosmétiques, les médicaments ou les vêtements, qu'on essaie d'éviter une utilisation de produits animaux.
Parce que le végétarisme, c'est pas nouveau, là. Même en Inde, c'est millénaire là, que les sages hindous disaient ben, que les autres, c'était pas éthique de manger des animaux, alors ils pratiquaient. Mais je pense que tu me disais qu'il y a une distinction entre le végétarisme et le véganisme qui s'est fait au 19e siècle, je pense, tu me disais.
Oui, ben en fait, c'est en 1944, finalement, que spécifiquement le terme « vegan » a été mis en place en Angleterre. mais sinon, c'est sûr que depuis longtemps, les gens réfléchissaient, les gens évitaient les produits animaux. C'est sûr qu'il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus, entre autres par Renan Larue, qui avait écrit un livre sur l'histoire du végétarisme. Donc, depuis longtemps, il y a des penseurs, que ce soit Pythagore, que ce soit des bouddhistes, ou il y a plein de personnalités qui ont prôné un respect des animaux. Puis c'est ça. Donc, au Québec, ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on entend plus parler de véganisme avant, c'est ça. C'était vraiment plus le végétalisme qui était le terme pour dire qu'on exclut tout produit animal. Et sinon, végétarisme qui est plus... souvent, les gens qui se disent végétariens, c'est qu'ils ne veulent pas manger de viande ou de chair animale pour ne pas tuer les animaux, mais sinon, ils vont manger les sous-produits animaux, que ce soit les œufs, le lait, le miel, et des choses comme ça.
Puis toi, personnellement, ton parcours, là, ça vient de où que tu as eu le goût de devenir végane ou que tu as commencé à t'intéresser au véganisme, disons?
Bien, je dirais que le gros changement, ça a été le pas vers le végétarisme. Avant d'être végane, j'étais 3 ans végétarien, puis c'était une transition progressive. Mais en fait, moi, c'était dans des cours de yoga, méditation, justement, que l'enseignante avait dit que c'était plus facile de méditer, puis au niveau des énergies et autres. Ça avait comme piqué ma curiosité. Et j'ai commencé à lire, à m'informer, à essayer des recettes, et de fil en aiguille, en lisant, parce qu'à l'époque, tu sais, ça fait 27-28 ans à peu près, il n'y avait pas grand-chose, même si à Québec, il y avait quand même quelques restaurants, comme le Commensal, il y avait le Millefeuille, il y avait quelques restaurants quand même végétariens. Donc, il y avait déjà certaines ressources au Québec, c'était quand même pas... fait que moi, ça a été progressivement comme ça, en lisant, en cheminant. Mais tu sais, moi, j'ai quand même grandi sur une ferme laitière, donc je n'étais pas nécessairement prédisposé à m'intéresser à ça. Fait que c'était vraiment le choc, je dirais, ou le changement, c'était vraiment le pas vers le végétarisme qui disait, je remets en question nos habitudes, nos traditions alimentaires, et je me re-questionne, puis je change mes habitudes. C'est comme... Parce que la majorité des gens ne se sont pas nécessairement questionnés sur qu'est-ce qu'on mange, d'où viennent les aliments qu'on consomme. Tu sais, fait que de faire un pas vers réfléchir qu'est-ce que je mets dans mon assiette, ça vient d'où. Et pour moi, c'est venu aussi en même temps un peu avec manger plus bio ou essayer de cultiver ou manger plus local. Ou, tu sais, j'ai eu quand même, ça élargit à plus que juste le produit animaux parce que je me questionnais sur qu'est-ce que je mange, puis ça vient d'où. Fait que de là, de savoir que, je sais pas, de la gélatine, par exemple, c'est d'origine animale, ou je me questionnais beaucoup. J'étais quand même dans une démarche aussi, j'étais au cégep, en réflexion sur la société. Donc, ça c'est venu pour moi dans une grande démarche d'aussi vouloir voyager un peu, découvrir d'autres cultures, puis essayer d'être plus au courant, de faire plus des choix conscients de ce que je faisais. T'sais, c'est vraiment ça, c'est vraiment des prises de conscience, puis comme faire des liens entre qu'est-ce que je mange, ça vient d'où. T'sais, c'était vraiment... C'est une période de ma vie, c'est ça, que c'était vraiment cette démarche-là.
En fait, on peut dire qu'il y a comme deux volets au véganisme. Il y a le côté alimentaire, puis il y a le côté éthique animale. Là, on voit que toi, au départ, c'est le côté alimentaire qui t'a amené au véganisme, plus que l'éthique animale.
Non, c'était la non-violence. À l'époque, on parlait, il y avait même un magazine, une dame qui avait été en Inde, puis quand elle était revenue, elle était végétalienne, elle, puis elle avait un petit magazine, ça s'appelait Ahimsa, et ça m'a vraiment marqué beaucoup, parce qu'il y avait justement des petites caricatures, genre mimes qu'on retrouve sur Internet de nos jours, mais tu sais, il y avait ça, des recettes, des articles, fait que c'était vraiment instructif, fait que j'avais été quand même beaucoup inspiré par ce petit magazine-là. À l'époque, on parlait beaucoup plus de non-violence. C'est vraiment le concept, beaucoup plus que de nos jours, on va parler de droit animal ou d'éthique animale. Fait que moi, je faisais ça faisait du sens parce que je me suis toujours vu comme plus pacifique. Donc, pour moi, parce que c'est sûr que, tu sais, de tuer un animal, c'est quand même un geste qu'on pourrait dire violent, tu sais, parce que faut quand même se mettre dans un état d'esprit. On tue. Donc, pour moi, j'aimais pas cet état d'esprit-là. Donc, pour moi, étant plus pacifique, j'avais pas le goût d'être dans la non-violence ou que d'autres personnes fassent le geste pour moi. Donc, c'était vraiment ma réflexion, était vraiment beaucoup là-dedans. Mais c'est sûr que... Puis, je dirais qu'il y a un autre volet qui est quand même moi qui m'a rejoint aussi beaucoup, c'est quand même tout le volet environnemental aussi qu'on parle de plus en plus quand même de nos jours. Mais c'est que l'alimentation est vraiment un volet important parce que c'est quand même quelque chose... On mange tous les jours. Puis, c'est ça que... Le geste de choisir notre alimentation, c'est un pouvoir qu'on a, que j'aime. On a ce pouvoir-là de dire qu'est-ce que je mets dans mon assiette, qu'est-ce que j'achète. Quand je vais au restaurant, est-ce que je vais choisir le mets végétal ou le mets avec des produits animaux? On a des choix qu'on peut faire plusieurs fois par jour. Et c'est ça que je trouve qu'on a un certain pouvoir, puis on peut aller chercher ce pouvoir-là. Fait que c'est sûr que l'alimentation est importante de ce côté-là. sinon, il y a tout le volet au niveau de l'alimentation aussi sur l'impact sur la santé. C'est sûr que ça, on peut en parler longtemps aussi. C'est ça. Donc, puis après ça, il y a l'impact plus large de nos gestes, de nos choix sur l'environnement et évidemment les animaux qui sont les premiers sujets de nos choix alimentaires. T'sais, ça, c'est un gros volet. Hein.
Écoute, on va prendre une petite pause musicale. On va revenir. Là, on va parler de l'aspect alimentaire, prochain bloc. Puis à la fin, on finira avec l'aspect éthique animale. Puis si on a le temps, on abordera l'éthique environnementale aussi. Mais puis on aussi parlera des ressources. Tu as parlé des restaurants, tout ça. Fait que on va faire ça au retour de la pause.
Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Ils viendront de fleurs qui s'installent toutes fraternelles et amicales loin des champs de bataille où des humains sont pris en tenaille. Ils s'activent lorsque je me tais, sont pleins de promesses, je le sais, qu'arrive la calmie nécessaire pour chérir entre ciel et terre. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Dans le roulis du vaille que vaille sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Dans le roulis du vaille que vaille sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches.
Jean Marc Aurel de son album Je cours après la lune. Je voulais faire jouer une toune avec de l'accordéon parce que je sais que c'est une autre des cordes de son arc de Stéphane Groslot. On est d'ailleurs, je vous rappelle qu'on est avec Stéphane Groslot qui nous parle de vécanisme, mais c'est aussi un accordéoniste. Et l'accordéon, c'est un instrument de, moi je pourrais dire, de revendication. Là, on voit ça dans les marches, tout ça, dans les manifestations des accordéons en France, ils faisaient ça. Alors Stéphane, on le voit souvent dans des événements publics avec son accordéon. Alors c'est pour ça que je voulais faire jouer quelque chose qui avait de l'accordéon dedans. Bon, alors on poursuit Stéphane. Là, on va parler plus concret là, au niveau alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire être vegan, puis les ressources, les restaurants, je sais, d'ailleurs, t'as un site web là, qui s'appelle Vegan Québec. On pourrait peut-être parler de ça aussi, des coordonnées de ton site.
Ben, en fait, mon site, c'est veganquebec.net. Ça fait au-dessus de 20 ans que je l'ai mis en place. J'essaie d'annoncer dessus des événements qui ont lieu à Québec, entre autres les potlucks vegan qu'on organise à Québec. J'ai mis des recettes, il y a de l'information aussi pour s'éduquer. Donc, je mets différentes informations. Il y a aussi une liste de plein de documentaires si les gens veulent approfondir certains aspects. Parce que c'était depuis maintenant les 20 dernières années, ça, le paysage vegan au Québec a quand même beaucoup changé. À ça, des livres de recettes, par exemple. C'est vraiment le fun de voir qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont sortis, sont vraiment beaux, tout en couleurs, etc. On peut en trouver plein dans les librairies, mais aussi à la Bibliothèque de Québec. Si les gens ont le goût, ils peuvent en trouver. En ligne, il y a énormément de ressources, des gens qui cuisinent en ligne, il y a des sites de recettes. C'est vraiment rendu facile pour quelqu'un qui s'y intéresse. C'est sûr que moi, c'est ça, une des choses, comme je ramène à l'occasion, c'est les potlucks que j'organise avec des amis. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de justement faire découvrir à des gens qui sont curieux c'est quoi une alimentation végane. Ça lui permet de... Tu es dans un potluck, si les gens ne savent pas c'est quoi, là, mais tout le monde amène un plat à partager. Puis nous, vu que c'est un potluck végane, on demande que tous les plats que j'amène, ce soit sans produits animaux. Mais des fois, on est facilement 20, 30, 40 personnes. Donc, ça fait vraiment un gros buffet. Donc, on peut goûter à plein de choses différentes, des desserts, des plats principaux, des salades et autres. Fait que c'est vraiment une belle façon de découvrir la diversité des saveurs puis des aliments. Et je trouve que c'est quand même, vu que manger, c'est vraiment important, puis c'est souvent une crainte des gens, ben, qu'est-ce que je vais manger si j'élimine les produits animaux? Parce que quand même, dans l'assiette habituelle, les gens la viande et les produits animaux occupent une grosse place dans l'assiette ou dans l'alimentation des gens. Donc, ça demande... Il faut avoir une ouverture de dire ben, « je vais essayer d'autres aliments, je vais essayer des choses, essayer des nouvelles recettes. » Puis moi, c'est un peu ce que je recommande souvent, c'est d'y aller peut-être une recette à la fois, tu sais, d'essayer quelque chose. Si on l'aime, on la garde. Puis si on l'aime pas, ben, on en essaie une autre éventuellement. Puis plus ça va, ben moi, c'était ça. Tu sais, j'ai trouvé des recettes qui m'intéressaient, puis j'ai fini par remplacer mes recettes avec des produits animaux par des recettes végétales. Et j'en suis venu à avoir une alimentation 100% végétale. Fait que ça, les potlucks qu'on organise depuis... comme je disais, ça fait une quinzaine d'années que j'en organise, pendant 10 ans à la Corderie de Québec. Mais la Corderie, on a perdu leur local à un moment donné où on faisait les potlucks. Donc, après la pandémie, il y a peut-être 3 ans, j'ai été approché par le Centre Jacques-Cartier. Et donc, depuis presque 3 ans maintenant, on organise une fois par mois un potluck. Habituellement, c'est le deuxième vendredi du mois au Centre Jacques-Cartier. C'est gratuit, il suffit d'apporter un plat végétal à partager avec les gens, puis ça permet de découvrir des mets, mais aussi de découvrir la communauté, de tisser des liens entre les gens qui sont soit véganes ou qui s'intéressent au véganisme. Puis souvent, les gens vont apporter des jeux de société ou de la musique, puis la soirée va se poursuivre en discussion ou en jeu ou en musique. Donc, ça se veut convivial, puis c'est ça, je pense que c'est un aspect important. Puis c'est sûr qu'à Québec, il y a aussi, on a fait cet automne, j'étais impliqué dans le premier festival vegan de la ville de Québec. Et on a eu plus de 1000 personnes qui sont venues, donc c'est vraiment au-delà de nos espérances. Et pour l'occasion, j'ai une amie qui a mis à jour la liste des options vegan dans les restaurants de la ville de Québec. Donc si les gens sont curieux, ils peuvent aller sur le site festivalvegandequebec.com, puis ils vont pouvoir télécharger la liste en format PDF. Donc, puis c'est fun de voir qu'on a beaucoup de ressources quand même maintenant à Québec. Là, on a peut-être 5 restaurants qui sont complètement véganes, végétaux, mais on a des options maintenant dans plein de restaurants, que ce soit des pizzas, des burgers, des poutines. On a des plats indiens, on a des plats, même il y a des beignes, il y a plein de desserts, il y a plein de choses. Finalement, on s'ennuie pas, tu sais, si on a un intérêt. Là.
Oui, parce que les restaurants, ils n'ont pas le choix là, d'offrir une option végétarienne parce que de plus en plus de gens sont végétariens ou véganes. Souvent, c'est la même chose. C'est rare que ils vont, à part peut-être comme de la pizza, vont mettre du fromage. Là, ils vont dire qu'elle est végétarienne, mais là, elle n'est pas végane à ce moment-là si on met du fromage.
Oui, c'est ça. Mais il y en a plusieurs qui ont maintenant des fromages végétaux. Okay. Donc, on peut en trouver... Je pense entre autres, à Taboy, Boîte à pain, Pizza 900, me semble aussi. Ou il y a comme beaucoup de places, Emporium aussi. Donc, il y a comme beaucoup d'endroits qui offrent une pizza complètement végane avec un fromage végane aussi, ce qui est vraiment le fun.
Puis là, il y a dans les restaurants, des bons restaurants, comme le Don, qui est sur la rue Saint-Paul, au coin de la rue Saint-Paul, puis de Saute-au-Matelot.
Oui, c'est ça, dans le Vieux-Port, en bas.
Dans le Vieux-Port. Il est entièrement vegan. Là,
il est très populaire aussi. Mais on en a quand même quelques autres. On a Bloom Sushi dans Limoilou, c'est des sushis complètement vegan, mais de haute classe. C'est vraiment raffiné comme endroit. Sur la rue Saint-Jean, les Mauvaises Herbes qui est ouvert l'année dernière à peu près, ou il y a pas peut-être un an et demi en tout cas. Donc, c'est une autre, vraiment une belle place. Puis on a des petits cafés comme Café Mila, Café Paletta, qui ont aussi qui sont complètement vegan. Donc, on voit qu'il y a quand même un intérêt à Québec de plus en plus. C'est sûr qu'on ne se compare pas comme Montréal, qu'eux autres, c'est des dizaines et des dizaines de restaurants complètement végé ou vegan. Là, on n'est pas encore rendu là à Québec, mais on sent quand même un bel intérêt. Et le festival vegan qu'on a organisé, c'était comme waouh, c'est un bon signe de dire qu'il y a vraiment une curiosité chez les gens face à ça. Là.
Puis c'est qu'il y a un préjugé que les gens disent ah, ben là, c'est fade. On ne mangera pas de viande, mais au contraire, moi, personnellement, je suis végétarien. Puis je trouve que la cuisine végétarienne est quasiment plus intéressante. Cuisine d'abord qui est colorée. Puis c'est juste qu'il faut la découvrir, il faut cuisiner. Et par exemple, il y a une chef cuisinière, je ne sais pas si elle est encore là, au monastère des Augustines. Qui, eux autres, ils ont une option végétarienne, là, le restaurant. On peut y aller, c'est réservé là, aux résidents, mais si vous passez par là, si vous allez voir, parfois, s'il y a de la place, on peut aller manger là. Puis le bar à salade est incroyable. Là, puis on voit qu'est-ce que c'est un chef cuisinier végétarien, qu'est-ce qu'il peut faire. Là. C'est impressionnant, c'est vraiment bon. Malheureusement, il y avait avant les venant de l'Inde, les Krishna qui faisaient des... Eux autres, en Inde, la cuisine végétarienne est très développée, mais on n'a pas vraiment beaucoup... Souvent, même les restaurants indiens, ils s'adaptent ici, ça devient de la cuisine indienne nord-américaine. Là. Mais, je les connais pas à Québec, là, tous les restaurants, là... Mais c'est ça, c'est que c'est loin d'être fade. Ce que je veux dire, c'est que c'est une nourriture qui est vraiment intéressante, la nourriture, l'alimentation végétarienne.
Oui, puis généralement, c'est quand même très santé aussi. Donc, les gens qui se préoccupent de leur alimentation, de leur santé, c'est vraiment avantageux parce qu'on va souvent mettre l'accent sur les fruits et les légumes et on n'arrête pas de le dire, les gens ne mangent pas assez de fruits et légumes. Souvent, ça va être les légumineuses qui vont être mises à l'avant-scène aussi. Et on sait que c'est quand même une des meilleures sources de protéines et d'alimentation, autant pour le corps que pour l'environnement. Et en fait, c'est que manger végétal, c'est sûr, on s'évite, on met vraiment les chances de notre côté au niveau de plusieurs problèmes de santé, que ce soit les maladies cardiovasculaires ou le diabète de type 2. Il y a plein d'enjeux même qui font que on... Parce que quand on... Il n'y a pas de cholestérol dans les produits animaux à la base. Donc, c'est sûr qu'au niveau de nos artères, ça nous aide vraiment beaucoup au niveau de réduire les chances qu'on ait de l'artérosclérose et autres. Donc, on a quand même... Tu sais, l'alimentation... Manger des végétaux, ça reste avec les fibres qu'on... Même souvent, tu sais, il y a souvent des critiques des gens qui disent on va aller chercher où nos protéines en étant vegan. Mais en fait... Il y a des protéines à peu près dans tout ce qu'on mange, de toute façon. Et souvent, c'est plutôt que les gens ont plus souvent une carence en fibres, ceux qui mangent beaucoup de viande, parce qu'il n'y a pas de fibres dans les produits animaux. Donc, tu sais, les véganes sont quand même reconnus pour avoir quand même une bonne santé habituellement. T'sais. Puis au niveau des indicateurs de santé, c'est sûr que... comme tout le monde à peu près au Québec doit prendre la vitamine D en hiver, ben c'est sûr, on recommande aux véganes de prendre la vitamine B12 pour être sûr d'avoir une source de B12. Mais sinon, à part ça, j'aime bien des trucs comme par exemple manger diversifié, mais essayer d'aller chercher les différentes couleurs de l'arc-en-ciel dans chaque jour dans notre alimentation ou essayer d'avoir des légumineuses puis des grains entiers à chaque repas, si possible. Donc, tu sais, il y a des petits trucs comme ça que si on regarde ça, ben, ça nous enligne quand même assez bien. Il y a quand même des ressources en ligne. C'est sûr que si les gens ont des questionnements, il y a de plus en plus de nutritionnistes quand même qui s'y connaissent dans le domaine. Mais il y a une application que j'aime vraiment beaucoup, moi, pour Android, pour les autant pour les iPhone qu'Android. C'est Dr. Gregor Daily Dozen, qui est comme une application, les 12 aliments, ou les aliments qu'on devrait manger chaque jour pour être le plus en santé possible. C'était un médecin qui a écrit un livre sur l'alimentation. Il a écrit plusieurs livres, qui est très connu dans le domaine. Mais c'est vraiment le fun parce que c'est une petite application où on a juste à cocher ce qu'on a mangé dans notre journée. Puis ça nous donne un total sur 24. Puis ça nous permet de voir à chaque jour est-ce qu'on va chercher ce qu'on devrait idéalement manger à chaque journée. Fait qu'il y a vraiment je trouve qu'il y a de plus en plus de ressources pour s'aider à faire une transition si on s'y intéresse.
Écoute, l'émission, le temps avance. On va prendre une courte pause musicale, puis là, on va terminer avec le volet éthique animale.
Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau. Et le chêne, droit debout, semblait trop au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups. Car c'est sa fatalité, toujours retomber, tomber. Tomber pour se relever, retomber. Tomber pour se relever, même si le chêne est géant. Il fendra dans l'ouragan, moi roseau par mauvais temps. Je danse avec le vent. Qui ne craint pas les orages. Il sait que l'ouragan ne se pointe pas souvent. Et il regarde de haut son pauvre ami le roseau, qui se bat d'arrache-pied pour se relever. Toujours se relever pour tomber, comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est balotté par le vent. Moi chaîne par mauvais temps, je n'expose qu'un flanc. Cette histoire banale, que des individus et différents points de vue. Pour se consoler un brin, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, tomber, tomber et nous relever. Retomber, tomber et nous relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes qui par instinct de survie confortent nos vies.
Alors, c'était les Cowboys fringants de l'album L'Expédition. C'était la pièce Le Chêne et, Chêne et Roseau. Avant ça, on avait eu Jean-Marc Aurel de son album Je cours après la lune. C'était la pièce Fruits et mystères. Alors, on est de retour avec Stéphane Groslot. Il nous reste quelques minutes pour parler de l'autre volet du véganisme qui est qui motive probablement la majeure partie des véganes, c'est l'éthique animale, dans le fond.
Oui, effectivement, la majorité des véganes se préoccupent des enjeux des animaux, comment les animaux sont traités, est-ce que c'est moralement correct de les exploiter ou de les tuer pour les manger. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de penseurs, de philosophes qui ont écrit là-dessus. On peut penser justement à Peter Singer ou à John Robin. Puis au Québec, on a aussi des personnalités qui ont vraiment écrit beaucoup là-dessus, comme ça, Élise Desaulniers qui a écrit des livres vraiment à succès, Martin Gibert, Valérie Giroux, Sophie Gaillard. On a vraiment des gens qui ont écrit puis qui ont quand même aussi influencé beaucoup le mouvement et la réflexion dans le domaine. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'à la base, c'est toute la réflexion, c'est pourquoi on les tue, les animaux, pour les manger quand c'est pas nécessaire. C'est vraiment ça, souvent, la réflexion derrière. Parce qu'on sait qu'on peut facilement s'alimenter avec des aliments végétaux. Donc, qu'est-ce qui amène les gens à vouloir manger des animaux? Bien, des fois, c'est des idées de tradition, par exemple, ou de penser qu'on en a vraiment besoin pour être en santé. Donc, puis aussi, sinon, bien, juste tout le monde le fait, pourquoi on ne le ferait pas, ou par habitude. Donc, il y a plein de raisons, ou pour le goût, des fois aussi, les gens vont dire. Mais à la base, ça devient plus un... Ça devient comme pour mon plaisir personnel, je vais enlever la vie d'un autre être vivant. Et dans la grande réflexion de l'éthique animale, c'est toute la question de la sentience qui est beaucoup émergée aussi, de dire, ben, on a souvent dit, ah, les animaux sont pas intelligents, ah, ils ressentent pas le douleur, ah, sont... Mais en fait, plus on fait de la recherche, toutes les éthologistes, entre autres, ou la recherche montrent que les animaux ressentent la douleur, ils ont leur vie, ils ressentent des émotions, ils sont capables d'apprendre, ils sont capables d'enseigner à d'autres, ils développent des relations familiales. Donc, on se voit, on se rend compte qu'on n'est pas différents, les humains. C'est juste une question de niveau, parce qu'il y a un spectre. On est des animaux, on est proche des animaux, les animaux vivent comme nous et veulent vivre leur propre vie à eux aussi. C'est pour ça qu'ils les mettent dans des cages ou de gérer leur vie, c'est comme, ben, on prend possession, on les exploite, on les utilise, alors qu'eux voudraient vivre leur propre vie.
Je disais un petit peu le livre de Peter Singer, le vegan, qui avait été écrit en 1975, qui a été réédité, là, une nouvelle édition qui vient de sortir l'année dernière, là, Peter Singer, vegan. Et lui, il dit qu'il mange des œufs bio. Les œufs, les poules libres. Il est plus flexible par rapport à certaines choses. Il parlait aussi même qu'il mangeait des huîtres, là, des mollusques. Là, parce qu'il disait, le mollusque, il peut pas dire qu'il souffre vraiment, il n'a pas de cerveau, tout ça. Et puis, tandis que les poules, ben, il dit, si on mange, il faut que ça soit des poules élevées en liberté, par exemple, là. Pour lui.
Et il ne faudrait pas que ce soit des poules qui aient eu des coques, parce que sinon les œufs sont fécondés et c'est un fœtus qui est en train de
C'est ça. Mais en tout cas, il dit, moi, c'est mon petit écart là, que je me permets. Puis il dit, il y a quand même une réflexion intéressante. Il dit, si on arrête complètement de manger de poulet, il n'y a plus de poules, là, parce que l'animal, c'est un animal complètement domestiqué, là, la poule. Là.
Ben oui, mais sauf que ça ne veut pas dire que on peut pas en avoir, qu'il ne peut pas avoir des animaux qui sont encore dans des sanctuaires, par exemple. Oui, Puis en fait, c'est que... Parce que d'un sens, tu sais, mettons cet argument-là qui dirait, ben, on va continuer à les manger juste pour les garder, mais on ne regarde pas à côté tous les animaux qui meurent parce qu'on est d'extinction, qui sont éteints parce qu'on a trop de place, parce qu'on fait des champs pour produire la nourriture pour les animaux. Donc, il y a quand même... est-ce qu'on va prioriser des animaux qu'on a sélectionnés, qu'on a transformés pour notre avantage, ou des animaux sauvages peuvent vivre par eux-mêmes? T'sais?
Mais malheureusement, je pense qu'il faudra faire une autre émission, parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment aborder le côté animal. On s'en prendra peut-être en mars, quelque chose comme ça. Juste rappeler ton site, le site Vegan Québec, c'est vegan...
veganquebec.net.
V-E-G-A-N-E.
Oui.
Veganquebec.net. Ben merci beaucoup, Stéphane.
Merci pour l'invitation.
Puis on va refaire une autre émission sur l'éthique animale et l'environnement.
Parfait, excellent.
Vous écoutez CKIA.